Sorti en 1987, Spaceballs fait partie de ces films qui font office de témoin d'une ambiance culturelle ancrée dans son temps. En effet, les années 80 sont marquées par la démocratisation au cinéma de la SF, la haute technologie étant devenue fascinante pour le grand public. Ainsi, on remarque l'arrivée de films tels que les Star Trek ou la trilogie Star Wars, cette dernière permettant de remettre au goût du jour le schéma narratif classique dans toute sa bipolarité.
Ces derniers furent les marqueurs d'une véritable révolution à l'intérieur de la machine d'Hollywood, et d'une manière plus générale de l'ensemble de la culture populaire des jeunes, incarnée encore aujourd'hui par des figures comme Marty McFly, ou plus modestement en France, Marcus. Phénomène culturel de l'époque, il est alors intéressant de voir comment la science-fiction et le grand Hollywood des années 80 a pu être parodié. C'est ce que nous allons voir dans ce second épisode de Parodian Rhapsody.
Tout d'abord, je pense qu'il est important de bien se replacer, ne serait-ce qu'historiquement, dans le contexte de l'année 1987. En 1987, le monde était américain. Sur le point de gagner la guerre froide, qui avait donné à la Terre certaines de ses plus grosses frayeurs, les États-Unis imposaient sans limite leur soft power culturel grâce à un renouveau d'Hollywood qui, comme les entreprises américaines, était d'humeur à donner sa chance aux jeunes réalisateurs et producteurs ambitieux, nourris de cette fameuse culture geek qui faisait sens à l'époque et qui venait enfin de sortir des chambres d'adolescents boutonneux à lunettes pour arriver dans les salles obscures et dans les salons de Madame et Monsieur Dupont-Smith.
En 1987, donc, le monde se lamentait de la fin de la première trilogie Star Wars, entre-temps devenu un phénomène mondial, dont le retour du Jedi était sorti déjà 4 ans auparavant, mais pouvait encore se délecter des films Star Trek, le 4 étant sorti l'année précédente, en attendant la seconde série qui allait justement sortir en 1987. C'était également le début de la Spielbergisation du cinéma hollywoodien, les cinéphiles pouvant déjà se délecter des deux premiers volets de Indiana Jones, de E.T., mais cependant, n'en déplaise à Gilles Stella, pas de Jurassic Park.
C'est dans ce contexte qu'est sorti Spaceballs, renommé en France La folle histoire de l'espace, réalisé par le fameux Mel Brooks, grand réalisateur satirique états-unien, qui fut déjà responsable précédemment de Frankenstein Jr., de Max la menace, série parodiant les films d'espionnage, ou encore de History of the World, Part 1, intitulé en France, encore une fois, La folle histoire du monde. Une grande satire de l'histoire de l'humanité, de l'âge de pierre à la Révolution française, featuring un des premiers morceaux de rap de l'histoire. C'est donc par ce monsieur que nous parviendra Spaceballs.
La première chose qui semble être intéressante à parodier lorsqu'on parle de Star Wars, c'est son scénario. En effet, la série de films de George Lucas se démarque par un modèle de scénario d'une simplicité enfantine, qui fait cependant la force de la trilogie. On retrouve deux camps clairement définis. L'Empire, dont le ridicule est ici masqué par de multiples références au Troisième Reich, qui font partie de la catégorie des méchants dits « indiscutables », au point qu'ils ne peuvent même plus être utilisés en argumentation avec le point Godwin. Et les rebelles, qui même s'ils représentent le peuple opprimé, sont en infériorité numérique et technique par rapport à leurs opposants, ce qui déclenche un sentiment d'empathie de type David contre Goliath pour le camp des gentils, qui sont déjà empathiques de par leur qualité de pipou. On a aussi un héros qui découvre sa destinée d'élu de l'univers, avec un gars qui est le gardien d'un savoir ancestral étant la clé qui permettra au héros de faire faillir le camp adverse. Il y a aussi les amis, une histoire d'amour, etc. En bref, Star Wars, c'est un mélange de la Bible, de la Seconde Guerre mondiale et de 2001, soit la meilleure façon de rendre grand public ce genre encore balbutiant qu'était la SF à la fin des années 70.
De par sa simplicité, il serait donc encore plus facile de critiquer dans une parodie le schéma classique plus titulé. Eh bien, Mel Brooks s'en sort, je pense, pas trop mal. En effet, tout en éludant pas le point, ce n'est pas sur la structure classique en elle-même qu'il centre sa parodie. Au contraire, l'humour du scénario va principalement du fait qu'il assume, voire surassume le fait qu'au final, le scénario, on s'en tape un peu beaucoup quand même. Pour ce faire, il utilise donc la traditionnelle technique du cassage du quatrième mur. Détourné du théâtre, le fait de casser le quatrième mur, à savoir le mur qui sépare la scène, composé de trois murs, et celui du spectateur, situé derrière ce dernier mur, a pour but de faire comprendre au spectateur que l'œuvre en question assume de n'être qu'une œuvre, Donc ici, qu'une parodie, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de réduction de tension dramatique, ou au contraire, s'il utilisait à bon escient, d'ouverture sur l'ensemble du cinéma.
Ne bougez plus ou vous êtes mort! Debout! Capitaine, on les tient!
Spectaculaire, votre cascade, mes chers amis, mais tout à fait inutile. S'il vous plaît, demi-tour. Oh, dommage, comme c'est dommage. Alors, princesse, vous pensiez pouvoir échapper à l'invincible force de...
Vous n'êtes que des idiots! Ce ne sont pas les vrais! Vous avez capturé les cascadeurs qui les doublent! Fouillez partout! Retrouvez-les! Oh! Retrouvez-les!
Dans le cas suivant d'une parodie, l'idée de briser le quatrième mur est selon moi judicieuse, surtout car le film assume ici ne pas chercher à immerger le spectateur dans un scénario, qui ne devient donc qu'un prétexte. Cette volonté de faire comprendre ceci au spectateur est très appuyée par Mel Brooks, qui ne cesse d'utiliser les regards caméra, ou encore à plus forte raison les anachronismes, avec notamment cette scène mémorable de l'utilisation d'une cassette du film par les méchants pour savoir ce qu'ils doivent faire ensuite, expliqué par une raison technologique abracadabrantesque, augmentant le ridicule de cette scène.
Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai une idée. Caporal, allez me chercher la cassette vidéo du film Spaceballs.
À vos ordres.
Producteur, les 12 chaises, le shérif est en prison, Frankenstein Junior.
Colonel Saint-Cyr, puis-je vous parler?
À vos ordres.
Comment peut-il y avoir une cassette du film Spaceballs, puisqu'on est en plein milieu du tournage?
C'est une bonne question. Mais il existe un nouveau procédé de distribution vidéo.
C'est vrai?
Oui, c'est la cassette minute. Elles sont en vente avant que le film ne soit terminé.
Non!
Et voilà! Je l'ai trouvé!
Cela étant, même si ce scénario ne semble être assumé que comme un certain prétexte, alors il est intéressant de se pencher sur ce prétexte, et surtout, à comment nous y sommes amenés. Spaceballs nous narre une histoire qui se compose en la réunion de trois intérêts différents de trois groupes de personnages. La princesse Vespa, qui, ne voulant pas se marier de force au fort peu charismatique prince Valium, dont son nom caractérise au grand regret de la future progéniture du royaume Rudia, sa personne, s'est enfuie en vaisseau, provoquant la tristesse du roi Roland, qui cherche à retrouver sa fille. Dans un second temps, Yop Solo, Lone Star en VO, et son acolyte poilu mi-homme mi-chien Burke, Barf en VO, sont recherchés par le vilain Pizzarico, définitivement plus drôle en VO avec Pizza the Hut, qui leur demande le remboursement d'une somme de 1 milliard de dollars, que les deux compères ne peuvent évidemment pas régler. La réputation de Yop fera que c'est lui que choisira le roi Roland afin d'aller récupérer sa fille, ce dernier leur proposant n'importe quoi en échange, notamment 1 milliard de dollars. C'est donc pour ces motivations que le duo se mettra en route pour aller rechercher la princesse, qui entre-temps fut capturée par les Spaceballs, les grands méchants patibulaires du film, incarnés par le célèbre Lord Casque Noir et son sous-fifre, le colonel Saint-Cyr, Sanders dans la version originale, étant néanmoins sous le commandement du président Esbroof, Scroop dans VO, qui, dans le but d'obtenir le code du bouclier de Drudia afin d'en aspirer l'atmosphère, prend en otage la princesse. C'est donc la bataille de ces trois intérêts que nous montre ce film.
C'est de partout le classique de la forme scénaristique qu'on observe un deuxième point parodique au niveau de la trame de Spaceballs, ce film utilisant ce que j'appelle un jeu entre le suivi assumé et accentué et le classage des codes scénaristiques originels qui se moquent en majorité d'une chose, les facilités de la saga Star Wars. Brooks se moque du fait que le schéma narratif de Star Wars ne soit au final qu'une mécanique trop bien huilée, et de fait ne jamais surprendre le spectateur alors que lui, au contraire dans son film, réalise les deux. Ce point est clairement le plus flagrant à travers le personnage de Yaourt. Ce dernier, parodiant Yoda, n'est au final qu'un personnage totalement au service du scénario, étant la clé assumée des péripéties. Lorsqu'il lui traduit le contenu de son médaillon, mais refuse de lui dire, prétextant le suspense, castant une nouvelle fois indirectement le quatrième mur, il nous fait surcomprendre que cet élément fera partie du dénouement final. De même que l'idée de lui laisser un objet qui lui sera sûrement utile plus tard, n'utilisant ici que cette seule raison pour le lui donner. Tout ceci participe à la moquerie de ce qui peut être comparable à un escalateur scénaristique que pratique Star Wars assidûment et que Brooks ne semble pas apprécier. C'est à partir de cette idée de perpétuer un côté très linéaire que le film cependant arrive à en tirer quelques effets humoristiques, en nous surprenant un peu par rapport à ce qui aurait justement dû se passer.
Pour ce faire, Brooks a choisi comme arme l'absurde, qui lui permet de faire plus ou moins tout ce qu'il veut dans son film. Les exemples d'utilisation de ce procédé sont très nombreux, mais je pense que la scène la plus caractéristique de ceci reste celle avec le chirurgien, qui utilise à la fois une attente du spectateur par rapport à une scène déjà présente dans Star Wars, et aussi une attente du spectateur par rapport au déroulement dit logique de cette scène. Dans cette dernière, la princesse, sur une table de torture, se voit filmée aux côtés des méchants, en vidéoconférence, un classique des films de l'époque, avec le roi Roland. Là où dans Star Wars, un robot chirurgien est là pour torturer on ne sait trop comment Leia, ce qui augmente le côté apeurant de la scène, pour lui faire révéler des informations sur les rebelles, ici, il est là pour exercer une pression sur le roi Roland, menaçant non pas de lui refaire son nez, ce qui serait déjà assez absurde, mais de lui refaire son nez d'avant qu'il ne soit refait par le roi lui-même, avec des photos à l'appui. Cette menace est ainsi parfaitement ancrée dans l'idée d'un détournement, non seulement de la menace de l'œuvre originale, de par son ridicule, mais aussi par conséquent de l'idée de menace en elle-même. Il y a donc une multiplicité de techniques de parodie qu'utilise Spaceballs au niveau scénario, afin de permettre à cette dernière non seulement de transmettre un message par rapport à Star Wars, mais aussi de ne pas ennuyer le spectateur, ce qui correspond au défi de toute parodie, à savoir être assez ancrée dans ce qu'elle parodie, tout en ayant une certaine forme d'indépendance vis-à-vis de celle-ci.
Car oui, le vrai cœur de ce qui fait Spaceballs, c'est bien ses personnages, à la fois dans leur manière d'agir, mais aussi dans leur costume. L'œuvre originale qu'est Star Wars se caractérise par des personnages qui s'assument déjà dans leur rôle, et qui ne vont que très rarement nous surprendre au cours de leurs aventures. Luke, le gars normal, accompagné de C-3PO et de R2-D2, de droïdes, ainsi que du charismatique Han Solo et de son acolyte Chewbacca. Grâce aux enseignements de Ben Kenobi puis ensuite de Maître Yoda, Luke va se transformer en héros pour sauver des griffes de l'Empire menées par l'Empereur et le terrifiant Dark Vador, la princesse Leia. Voilà, dans la saga, les méchants seront, à l'exception de Vador à la toute fin, des méchants dans toute leur méchanceté, et les gentils seront fondamentalement gentils, les enseignants seront professoraux, etc. Et ça, tout le monde le sait dès le début, et personne ne s'attend à ce qu'en plein milieu du film, l'Empereur aille aider une mamie à traverser la route, ou que Luke brûle des vaisseaux sur Tatooine. Non. Parce que les films Star Wars sont faits pour être des films reposants, où chaque élément est précalculé à l'avance dans les têtes de chacun des spectateurs, afin que, quand ils arrivent enfin, on se sente heureux que cela se passe effectivement comme on l'avait imaginé, en mal comme en bien.
Spaceballs réutilise donc cette manière de procéder, mais le pousse bien plus loin que le fait Star Wars, tout en ajoutant une bonne dose de ridicule. Une princesse un peu rebelle sur les bords mais qui se fait enlever ? Faisons d'elle une gamine trop gâtée qui n'a aucune conscience de ses actes. Un acolyte boule de poil ? Faisons de lui un gros chien humain patibulaire. Un méchant des plus charismatiques dont l'armure noire et le casque digne d'un général romain a terrifié de nombreux enfants. Faisons de lui un bureaucrate aussi peu charismatique que menaçant et faisons-le jouer avec des poupées.
Et voilà, princesse Vespa, je vous ai enfin prise au piège, et je peux disposer de vous comme je l'entends et autant que je le veux.
Non ! Oh, je vous en supplie, ne vous approchez pas !
Vous êtes à ma merci !
Pas si vite, casque noir !
Yop Solo !
Ouais, c'est moi, je suis venu sauver la chérie de mon cœur. Jour chérie !
Ta dernière heure a sonné ! Pan !
Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que t'as fait à mon pote ?
La même chose que je vais te faire à toi, gros toutou. Oh ! Et à toi aussi.
Oh ! Oh !
Et maintenant, princesse Vespa, nous voilà enfin seuls.
Oh non ! Oh que je vous déteste ! Je vous déteste ! Laissez-moi tranquille. Pourtant, je vous trouve plutôt fascinant.
Chaque personnage est ainsi détourné de telle manière que les traits qui sont faits de lui ou d'elle dans la trilogie de films en sont caricaturés, au point que tout ceci en devienne foncièrement ridicule, montrant ainsi les limites d'une considération aussi manichéenne et bloquée de ce monde.
On peut cependant noter, je pense, un réel sens dans les choix qui sont faits de la part de Brooks dans les personnages. Par exemple, on note avec intérêt que le personnage de Luke et celui de Han Solo sont mélangés dans la parodie pour faire Yop Solo, qui a cependant plus les traits de caractère de Han que de Luke. Je suis assez étonné par ce choix du parodiste que de mélanger ce qui en mon sens représente les deux personnages du clan des gentils les plus opposés, l'un représentant le beau gosse charismatique et risque tout, et l'autre le gamin boutonneux dont le rôle va être d'être digne de sa destinée d'élu. Ça fait pour moi autant de sens que de parodier le Seigneur des Anneaux en mélangeant le personnage de Frodon et de Aragorn.
En découle pour moi un double point de déception important par rapport à Spaceballs. Non content de, au final, ne pas nous offrir une parodie intéressante du personnage central de la première saga, ce que d'autres feront très bien pourtant, comme la web-série Star Wars Deacon, le mélange des deux nous offre un Yop Solo que je trouve assez similaire à celui de Han dans l'œuvre originelle, voire un cran en dessous, ce qui est un comble dans une parodie qui a pour but de ridiculiser les personnages. Certes, dans son camping-car volant, le début du film nous présente un Yop qui semble un peu beauf, mais pour le reste du film, il reste totalement dans les clous du personnage du héros. De fait, c'était un passage obligé suite à l'idée de ne pas garder un Luke. Dans Star Wars, on en donne pour tous les goûts, et le duo Luke-Solo permet un certain équilibre de par l'opposition des deux personnages. À partir du moment où l'un des deux est absent, aucune ridiculisation d'un des deux n'est possible. Si par exemple, dans la parodie, Yop avait été plus potache, ça nous aurait paru bien lourdingue. Alors que si un Luke attardé avait été développé en plus, je pense que dans un sens, un équilibre dans la connerie aurait été trouvé. Je ne vois vraiment aucune explication à ceci, surtout que même s'il avait été parodié, Luke aurait certes constitué une cible facile, mais cette dernière n'aurait pas été la seule facilité du film. Il n'en reste que malgré ses points de regret, par le biais d'un Yop que je trouve trop édulcoré pour cette parodie, le film trouve son équilibre entre ses personnages.
Ces derniers sont d'ailleurs aussi caractérisés par un élément qui illustre parfaitement ce que Mel Brooks a fait de Star Wars, à savoir les costumes. L'œuvre originale est très marquée par l'influence des costumes de ses personnages, car elle nous présentait des vêtements que l'on ne peut décrire ni dans notre passé, ni dans notre présent, ce qui est forcément déstabilisant. Les deux exemples les plus marquants par rapport à ceci sont évidemment le costume de Vador, et d'une manière générale tout ce qui touche au costume dit technologique, et les couettes dites pain en raisin de Leia. L'armure de Vador est caractérisée en mon sens par une mise en avant du symbolisme de l'armure qui prime sur son aspect fonctionnel. Dans la même optique que la construction des personnages, Brooks pousse à l'extrême cette manière de faire les costumes. Lord Casque Noir est dans le film un méchant fondamentalement stupide et pathétique. Son costume montre donc son opposition avec le personnage de Vador, avec donc un énorme casque qui, en plus de le rendre parfaitement ridicule, lui est inutile, passant son temps à enlever sa visière, se plaignant de l'impossibilité qu'il a de respirer correctement à l'intérieur. L'absurdité d'un tel dispositif se poursuit dans les scènes du désert, où, pour se protéger du soleil, il arbore un casque aussi gros, mais aux allures coloniales, avec seulement deux trous sur lesquels il place ses jumelles. Ainsi, c'est une véritable démythification qui est faite du personnage de Vador, qui en perd ainsi tout son charisme, de même en général que tout l'univers de la saga. A tel point qu'il est, je pense, parfois inutile, voire stupide, de chercher du sens. Par exemple, Pizza the Hut n'est au final qu'un amoncellement de pizza, uniquement pour le jeu de mots avec la marque Pizza Hut, et ainsi pour lui faire perdre toute forme de crédibilité.
Les costumes montrent aussi le second point, en dehors de pousser la continuité de la logique de Star Wars jusqu'au bout, que cherche à faire Spaceball, à savoir casser ce à quoi l'on pourrait s'attendre d'avoir comme parodié. On observe ceci notamment à travers l'exemple des pains en raisin de Vespa qu'elle arbore dans la scène où elle s'enfuit de son mariage en vaisseau, mais qui sont en fait un casque pour écouter de la musique, ce qui est une interprétation assez surprenante, donc comique, de la coiffure mythique. On retrouve donc la double volonté non seulement de ridiculisation de l'univers de Star Wars, tout en cherchant à créer de l'humour en cassant totalement avec ce qui est attendu dans une parodie de Star Wars, et donc par le biais du jeu entre ces deux humours, de garder une fraîcheur humoristique tout au long de la parodie. Ainsi, la stupidité ambiante est clairement ce qui fait la force de cette parodie, car il en découle de nombreuses situations qui, par conséquent, issues de l'œuvre originelle à travers soit les personnages, soit par des similitudes dans les décors, les ambiances ou le scénario, en deviennent des absurdités parodiques. Malgré tout, Spaceballs ne pioche pas uniquement dans l'univers de Star Wars, qui reste cependant sa source d'inspiration première, pour créer cette ambiance totalement barrée. C'est réellement toute une tranche du cinéma américain de l'époque qui est utilisée à plus ou moins bon escient pour alimenter l'humour absurde.
Car oui, de nombreuses autres œuvres culturelles majeures ont été détournées dans Spaceballs, dont de nombreux films datant de l'époque ou non d'ailleurs. Il faut donc observer plus en détail à la fois les points communs que peuvent avoir les autres œuvres, qui font ici plus office de référence parodique, pour ensuite essayer de réellement caractériser la teneur de ce procédé dans le film des Spaceballs. Il n'est pas étonnant d'observer que nous trouvons dans un film de science-fiction humoristique, on retrouve principalement des références à d'autres œuvres de science-fiction, qui sont toutes plus ou moins avouées à l'intérieur du film. En effet, l'exemple le plus cinglant que l'on puisse avoir d'une référence avouée peut s'entendre dans la scène du téléporteur de Star Trek.
Président Hasbrook?
Oui?
Ici le centre de contrôle de Spaceball. Commanderait Zircon à vos ordres, monseigneur.
C'est à quel sujet, commanderait?
Un message de l'or casque noir. La princesse Vespa est en vue et Spaceball entame les manœuvres d'approche.
Ah oui?
Nous allons avoir les deux vaisseaux sur l'écran du télédar. Voudriez-vous assister à sa capture?
Et comment? J'arrive!
Goutonnet vous y transférerait en une seconde avec le désintégrateur.
Pas de désintégration. J'y tiens à mes molécules. Vous y croyez?
Oh que oui, Snotty me l'a fait deux fois la nuit dernière. C'était vraiment le pied.
D'accord, je ne veux pas avoir l'air d'un vieux schnock. Après tout, il le trouve bien dans Star Trek.
Dans cette scène, le nom même de la série est prononcé, ce qui reprend en quelque sorte le procédé de cassure de quatrième mur, ce qui permet à les références de rester en accord avec le reste du film, et qui donc ne fait pas tâche. De fait, le fait que le film avoue être un film de nombreuses fois fait que tous les emprunts parodiques faits à la culture populaire sont vraiment harmonisés, mais pas non plus attendus. Car je pense que tel une sorte de zapping du paysage cinématographique hollywoodien, Spaceballs utilise une sorte de panorama, de mélange, d'un grand nombre de références, non pas pour un but précis pour chacune, mais bien pour ajouter un humour absurde à son film, car pour ainsi dire, le ridicule assumé de cette énorme méli-mélo spatio-temporelle ne semble pas, de prime abord, avoir pour une autre vocation que d'offrir au spectateur un peu de surprise par rapport à ce qui aurait pu être une simple parodie de Star Wars, dont on aura vaguement pu imaginer tout le déroulé, ce qui aura très probablement gâché notre plaisir. Ouvrir la parodie à d'autres détournements permet donc au film de garder une certaine fraîcheur. On observe d'ailleurs l'accélération des références jusqu'à la référence ultime à l'acte final du film, témoignant d'une réelle volonté de Mel Brooks de ne pas lasser le spectateur. C'est d'ailleurs en général pour ceci que les parodies sont un art dont la longueur va de manière croissante avec l'ouverture. Mais cette ouverture n'entraîne-t-elle pas un certain détournement de la parodie majeure du film, à savoir Star Wars?
En mon sens, non, pour deux raisons. Tout d'abord, il ne me semble pas que le message de Spaceballs ne soit fait que pour Star Wars, mais s'applique au contraire à toute une tranche de films de l'époque, ce qui explique la volonté d'ouverture à tout un panorama assez représentatif de la culture populaire d'Hollywood, que j'essaye ici de ne pas trop vous spoiler, car dévoiler le nom de l'œuvre en question réduirait ici tout l'effet de surprise comique qu'elle pourrait vous apporter en regardant le film. Le croisement des technologies et des mondes propres à chacune des œuvres mineures parodiées donne l'impression au final que le monde de Spaceballs n'est que le monde d'Hollywood, ou tout du moins le monde imaginaire d'un fan de SF de cette époque. Car on note aussi un petit côté enfantin qu'a pu avoir Mel Brooks à construire son film, comme s'il n'était au final que le film que chaque enfant ou grand enfant de l'époque a pu imaginer dans sa tête, comme chaque enfant le fait étant petit, mélangeant sur son aire de jeu les diverses figurines que lui ont achetées ses parents. Cette vision est parfaitement décrite par un élément précis du film, qui se trouve dans la scène finale, et qui est assez incroyable, à savoir le recasting d'un acteur original d'une œuvre dans le cadre de la mini-parodie qui lui en est faite à l'intérieur de Spaceballs. Le résultat est hilarant, et je vous laisse la surprise. Mais un autre fait peut témoigner de cette vision des choses, et se trouve dans la VF. En effet, la voix de Yop en VF est la même que celle de Yoda dans Star Wars, à savoir celle de Serge Lorca. Ce petit détail montre ainsi en mon sens parfaitement l'idée que Spaceballs est au final un rêve de fans de SF, ce qui peut lui asséner une critique pour fanservice, mais qui est utilisé ici assez peu pour flatter l'ego culturel du spectateur, mais plus pour lui donner une parodie plus surprenante et plus loufoque. Un dernier point vient confirmer cette idée, à savoir la présence d'un humour original qui vient fusionner avec l'humour à référence inhérent à un film parodique.
Il est très intéressant d'observer ici que le réel ciment du film n'est pas un pastiche du scénario de Star Wars, mais un scénario que l'on pourra qualifier de plus ou moins original de la part de Mel Brooks. C'est ici les parodies, de Star Wars ou d'autres, qui se fondent et qui s'imbriquent dans un scénario qui ne fait que reprendre vaguement quelques brides, quelques lieux, quelques enjeux de Star Wars. Et ainsi, de ce fait, permet à Spaceballs une réelle liberté qui fait de ce film un véritable film de divertissement, qui est donc un divertissement à parodie, et non une parodie divertissante.
De fait, on observe cependant un phénomène d'interdépendance entre le divertissement et la parodie. En ce sens que l'on observe que tout l'humour original en reste néanmoins construit sur les personnages, qui sont, eux, issus directement de la parodie de Star Wars, voire d'extrapolation des enjeux scénaristiques des tournées de Star Wars. Il est alors assez compliqué de réellement trancher entre l'idée d'un divertissement à parodie ou bien une parodie divertissante, car tout est fusionné, imbriqué d'une telle manière que l'on ait cette double impression. De fait, encore une fois, je pense que l'ajout d'humour original vient principalement du fait qu'il me semble impossible de tenir 1h30 sur une simple parodie de Star Wars, malgré la richesse de la saga.
Cette surcouche d'humour, en plus de l'ouverture qu'elle permet de faire sur l'ensemble du paysage cinématographique d'Hollywood des années 80, permet au film de dépasser son simple statut de parodie de Star Wars, et permet ainsi à Mel Brooks d'exprimer des messages inattendus, dont le surprenant, dans son film Spaceballs.
C'est ainsi que l'on peut tenter d'interpréter la présence de toute une tranche du paysage cinématographique hollywoodien. En effet, toute parodie se doit d'avoir un message, et nous avons pu constater que ce message semble plus se trouver du côté d'Hollywood que du côté de la saga Star Wars, qui en est cependant un bon représentant. Tous les films ou séries parodiées font ici référence à la culture populaire, d'une manière générale, soit aux films de SF de l'époque, soit aux films de LucasArts. Spaceballs nous envoie dans un monde d'univers composite, et qui, ainsi en s'imbriquant, ne fait que très peu de sens. Enfin, le film surappuie le fait qu'il assume totalement d'être un film. Et c'est à partir d'un élément précis qui est issu de cela que l'on peut tenter de construire une explication qui permet de mettre en lien tous les éléments énoncés précédemment.
En effet, à un moment du film, on observe dans le coin des méchants une vidéothèque, qui contient, en plus de la cassette de Spaceballs, les cassettes de bon nombre des films réalisés par Mel Brooks. Le passage est, en mon sens, très intéressant, car ce n'est plus ici seulement briser le quatrième mur pour faire de l'humour, mais cela a bien un véritable sens par rapport à la technique du placement de produits, qui a certes toujours existé au cinéma, mais qui, en ces années-là, devenait de plus en plus prégnant à l'intérieur des films, comme notamment avec Retour vers le futur. Toute une sous-intrigue du film est d'ailleurs par rapport à cet aspect mercantile des produits dérivés de films, notamment démocratisés par Star Wars principalement. De fait, c'est là où l'on peut comprendre l'intérêt non seulement de l'œuvre choisie, mais en plus de l'omniprésence du film qui assume d'être un film. Le message n'est pas au fond dirigé vers le film, ou en tout cas pas totalement, et surtout orienté vers le rapport entre culture et argent, notamment vers la forte hausse des budgets alloués aux films qui découle du développement de la post-production qui vient simultanément avec la démocratisation des films de SF. La forte hausse des budgets fait forcément référence au développement des nouveaux moyens de financement des films, à savoir le placement de produits ou les produits dérivés, que Brooks semble critiquer en ce sens qu'ils font de plus en plus barrage à la libre expression et à la libre création d'univers par les réalisateurs.
Le placement de produits n'est pas forcément bien adapté à un film, car, paradoxalement, c'est souvent les films les moins ancrés dans notre réalité qui ont le plus besoin d'argent. Or, si la seule chose que peut apporter le placement de produits est un ancrage dans la réalité, alors on note un paradoxe entre ces deux choses. De surcroît, les produits dérivés entraînent parfois la création de personnages inutiles, qui n'ont comme utilité que d'être mignons afin de faire vendre des peluches d'eux aux enfants. Star Wars est d'ailleurs un adepte de cette technique, avec par exemple les Ewoks de l'épisode 6.
Mais Yaourt, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et qu'est-ce que vous faites ici? Du mercantilisme.
Du mercantilisme? Qu'est-ce que c'est?
Du merchandising. Venez, je vais vous montrer. Ouvrez le dépôt. Venez, 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 approchez, admirez. Le nom du film est sur chaque article. La promotion, le merchandising, c'est ce qui rapporte le plus quand le film est sorti. Le t-shirt Spaceballs, l'album de Spaceballs à colorier, le déjeuner spécial Spaceballs, Spaceballs en flocon, Spaceballs le lance-plat, les enfants. Et enfin, notre vedette, la poupée Spaceballs, moi.
Que l'astuce soit avec vous.
Ainsi, toute l'absurdité du film fait avant tout écho à la propre absurdité des systèmes de financement organisés par la machine d'Hollywood et qui ont des raisons d'être critiqués.
Une corollaire de cette critique peut être aussi intéressante à étudier et se place d'un point de vue plus omniscient sur le film. On observait précédemment que Spaceballs mélangeait dans un grand mélimélo spatio-temporel la culture populaire. Or, la chose étonnante par rapport à ceci, c'est que même si ce mélange est de prime abord totalement absurde, Mel Brooks réussit cependant à construire un scénario, qui, à l'intérieur de son film, fait sens. La facilité avec laquelle il a ainsi pu mélanger les univers sans trop se soucier de la cohérence de tout ceci, transmet ainsi le message qu'au final, de par les effets de mode, et dans un souci avoué de rentabilité, dans la logique « si un type de film marche, on en refait », le système d'Hollywood tend à faire que chaque film ressemble au précédent, tel un monde postmoderne où tout ne serait que référence, et ainsi où toute la créativité du monde du cinéma serait épuisée car plus aucun producteur n'aura le courage de donner de l'argent à des réalisateurs qui seraient plus audacieux que celui qui ne réalise que des vagues copies du film de son copain qui a marché.
Cette critique d'un certain manque d'audace des producteurs peut aussi se confirmer par la fausse suite de Spaceballs accolée à la fin du film, et dont l'absurdité renvoie à celle des films qui ont des suites, alors que le premier film n'avait aucune intention d'en avoir une, ne laissant aucune trame non résolue, mais qui, dans un souci d'exploiter le filon jusqu'à la moelle, va chercher la dernière ficelle qui peut être tirée d'un film, à la base fermée, pour créer des résultats qui, non content d'entraîner les gens dans une suite qui n'avait aucune raison d'exister, pourrit aussi le plus souvent la réputation du premier film.
Alors, petit édito juste pour dire qu'en fait, je me suis gouré, le trailer de télévision n'existe pas en fait, il n'y a pas de trailer accolé à la fin de Spaceballs, mais la suite est quand même mentionnée dans le film à travers un extrait que je vais vous passer.
Yaourt, j'espère qu'on se reverra un de ces jours.
Qui peut le savoir? Avec l'aide de Dieu, il se peut qu'on se retrouve dans Spaceball 2 à la recherche d'autres trésors.
À la revoyure, Yop Solo.
À la prochaine, Yaourt.
De même que cette critique des suites, on peut retrouver à travers le fil rouge forcé mais assumé du médaillon, une critique des fils rouges justement forcés, où un personnage fait exprès, pour des raisons le plus souvent assez ridicules, de garder une information déterminante pour un moment précis du film, permettant ainsi d'apporter un peu de surprise dans un film mal écrit, même si ça ne marche jamais. Ou encore une critique des Deus Ex Machina mal utilisée à travers l'astuce, The Schwartz en VO, autre procédé qui cache normalement les faiblesses d'écriture d'un scénario.
Spaceballs, en général, construit donc ici une critique des conventions d'écriture d'Hollywood, qui est une autre forme de bridage de l'écriture cinématographique au même titre que le capitalisme. Ce dernier élément de critique peut également être confirmé de par un sous-texte que nous n'avons pas encore évoqué, à savoir celui des politiciens américains.
En effet, on observe aussi une véritable justification, à la fois du message, mais aussi du choix de Brooks de parodier en particulier Star Wars, en dehors de son rôle de symbole du capitalisme d'Hollywood. De fait, comme évoqué au début de l'épisode, Star Wars, c'est le manichéisme par excellence, qui justifie la méchanceté de ces méchants par l'incontestabilité des méchants auxquels ils font référence, à savoir les nazis. Or ici, on remarque que les méchants ne font plus référence aux nazis, mais au gouvernement américain, à travers par exemple le siège des méchants, qui reprend des éléments architecturaux du Sénat états-unien, le bureau du personnage qui remplace l'empereur, c'est-à-dire le président, qui ressemble beaucoup au bureau ovale, ou encore la petite cravate de Lord Casque Noir, qui est ici le bureaucrate par excellence.
La comparaison implicite des politiciens états-uniens avec les nazis semble assez grossière, et c'est effectivement le cas. Mais proposer un film avec une telle audace, surtout encore en période de guerre froide, est réellement délectable. Surtout que ce message n'est réellement pas marqué dans le film. Ce qui ne gêne pas ceux dont le ce qui ne gâche pas le visionnage à ceux dont ce n'est pas leur tasse de thé. Car la chose réellement agréable par rapport à ce message, c'est que peu importe tout ce que l'on peut imaginer face à la diffusion d'un tel lien dans la parodie, Spaceballs n'est pas un film qui se prend trop au sérieux par rapport à cela, car il assume le ridicule de ses méchants. Ainsi, le message selon moi n'est pas tant que les politiciens américains sont des nazis, mais plus que les politiques américains font parfois des choses ridicules, comme l'a notamment montré leur comportement, parfois antidémocratique, de par un certain aveuglement idéologique vis-à-vis des communistes. C'est là, je pense, toute la portée qu'a le ridicule et l'absurde de ce film par rapport au lien que l'on peut tisser envers la politique états-unienne.
Un éventuel dernier lien peut aussi être mis en avant par rapport à tout ça. Historiquement parlant, l'un des éléments qui a permis aux États-Unis de gagner la guerre froide est le projet Initiative de défense stratégique, mis en place par l'ancien acteur Ronald Reagan en 1983. Ce dernier était une sorte de champ de force antimissile que les États-Unis ont prétendu avoir les moyens de construire afin de faire peur à l'URSS, qui était alors en déclin économique et qui n'a pu ainsi répliquer, permettant aux Américains de reprendre le pouvoir idéologique suite à une période de remise en doute. Tout cela pour en venir au fait que ce projet s'appelle aussi Star Wars. Or, il est intéressant de remarquer que le ridicule de ce projet peut être mis en parallèle avec le ridicule du moyen utilisé en fin de film pour aspirer l'air de la planète Vespa, à savoir une statue de la liberté géante avec un aspirateur lui aussi géant. Sans avoir les moyens d'infirmer ou de confirmer cette théorie, je trouve en tout cas le parallèle assez frappant pour être souligné.
La double critique du capitalisme croissant d'Hollywood et de l'aveuglement idéologique états-unien lors de la guerre froide sont à mon sens les deux messages majeurs implicites que l'on peut retrouver dans Spaceballs. Mais l'on retrouve d'autres messages à partir de détails. Par exemple, Yaourt est un personnage qui parle yiddish, qui est un langage qui était parlé en majorité par les juifs d'Allemagne, avant qu'ils ne soient massacrés lors du génocide perpétré par les nazis. Or, Yaourt est aussi le personnage le plus mercantile, et celui qui apporte au film le plus de ses conventions. On note ici de la part de Mel Brooks, lui-même juif, un trait d'humour sur les clichés par rapport aux juifs, et notamment leur prétendu caractère plus mercantile. Ce n'est définitivement pas le trait d'humour le plus fin du film, et je préférais ne pas trop développer ce point, qui ne mène pas à grand chose. Cependant, on remarque que comme tout l'aspect un peu politique que l'on peut trouver dans Spaceballs, ce dernier point n'est pas encore une fois très marqué, et je dois bien avouer que c'est un point que je n'avais même pas remarqué lors du premier visionnage, mais seulement après avoir fait quelques recherches. Pas très important en mon sens donc.
Ainsi, Spaceballs est un film assez surprenant. Il utilise pour construire sa parodie un ton très décalé qui lui permet non seulement d'être drôle sur un premier aspect, à travers le ridicule de la parodie qui est faite de la saga Star Wars et au final de nombreuses autres œuvres culturelles, mais aussi dans un second temps de construire un humour qui est propre au film et qui se marie aussi très bien dans le cadre d'une parodie qui reste omniprésente. L'humour absurde et les effets de cassure du quatrième mur permettent de construire assez habilement une mise en évidence du propre absurde des impératifs financiers d'Hollywood, de plus en plus handicapant pour la créativité des réalisateurs et de toutes les équipes de tournage, mais aussi le ridicule des conventions d'écriture, éculées et qui ont besoin d'être renouvelées.
Le ridicule sert aussi des causes un peu plus sérieuses, comme la politique, délivrant un message et des sous-entendus très virulents à l'encontre des États-Unis, ce qui peut être considéré comme caricatural ou au contraire rafraîchissant vis-à-vis de la menace d'idéologie pro-états-unienne plus consumée parfois Hollywood, mais dont Mel Brooks a eu l'intelligence, comme avec les blagues sur les juifs, de ne pas en faire le cœur du sujet, laissant ainsi libre choix au spectateur de s'intéresser à cette partie-là du film ou non, qui n'aurait cependant pas souffert en mon sens de la suppression de ces sous-entendus. Spaceballs est donc un bon film de divertissement, parfois un peu lourd, mais qui utilise avec intelligence son absurdité pour montrer les propres absurdités de l'ensemble d'Hollywood qui le présente dans sa forme la plus caricaturée.